Bien, bonjour à tous. Du fait que cette prédication est séparée en deux parties, aujourd'hui je serai un peu plus bref, ouf diront certains, et la prochaine fois je serai un peu plus long, ouf diront d'autres. Donc je vous propose de faire un petit retour sur ce que nous avons vu depuis le début, de tirer certaines conclusions. Avant d'aborder notre dernier sujet important, nous voulons nous arrêter notre pensée sur le chemin parcouru pour en résumer les étapes. Nous avons cherché à montrer simplement et à expliquer clairement quelques-unes des expériences par lesquelles passent habituellement les chrétiens. Mais il est évident que les nouvelles découvertes que nous faisons à mesure que nous avançons avec notre Seigneur sont nombreuses et il ne faut pas que nous cédions à la tentation de simplifier outre mesure l'œuvre de Dieu. Cela pourrait nous entraîner dans une confusion très grande. Certains enfants de Dieu croient que notre salut, qui pour eux comprend également la question de vivre une vie sainte, réside entièrement dans une appréciation de la valeur du sang précieux. Ils ont raison d'insister sur la nécessité de veiller à être en règle avec Dieu au sujet de certains péchés connus, ainsi que sur l'efficacité continuelle du sang qui efface les péchés. Mais il n'est pas juste de penser que le sang accomplira tout. Il croit à une sainteté qui, en réalité, signifie simplement la séparation de l'homme d'avec son passé. Il croit qu'en effaçant sur la base du sang versé ce que l'homme a commis, Dieu sépare cet homme des liens du monde pour qu'il lui appartienne, et que c'est cela la sainteté, et il s'arrête là. Il passe ainsi à côté des exigences auxquelles il a pourvu. J'espère qu'à ce point de notre étude, nous avons vu clairement combien cette manière de voir est incomplète. Il y en a d'autres qui vont plus loin et ont reconnu que Dieu les a englobés dans la mort de son Fils sur la croix, afin que leur vieil homme soit crucifié en Christ et qu'ils soient délivrés du péché et de la loi. Ils ont une foi réelle dans le Seigneur, car ils se glorifient en Jésus-Christ et ont cessé de mettre leur confiance dans la chair. Philippiens 3, verset 3. Dieu a en eux un fondement solide sur lequel il peut bâtir. Et de cette position, qui est un point de départ, plusieurs sont allés plus loin encore. Ils ont reconnu que la consécration, en employant ce mot dans son sens réel, signifie se livrer sans réserve entre les mains du Seigneur pour le suivre. Tout cela, ce sont les premiers pas, à partir desquels nous avons déjà touché à d'autres phases de l'expérience que Dieu a en vue pour nous et que plusieurs connaissent. Il est toujours essentiel de nous souvenir que chaque pas, bien qu'il représente un fragment précieux de la vérité, n'est pas en lui-même la vérité tout entière. Ils sont tous le fruit de l'œuvre de Christ accomplie pour nous sur la croix, et nous ne pouvons en ignorer un seul. Nous avons reconnu qu'il existe un certain nombre de phases dans la vie et l'expérience du croyant, et nous remarquerons maintenant un autre fait. Bien que ces phases ne soient pas toujours nécessairement expérimentées dans un ordre fixe et précis, elles semblent cependant être marquées par certains traits et obéir à certains principes qui se répètent. Quels sont ces principes? Il y a premièrement la révélation. Comme nous l'avons vu, la révélation précède toujours la foi et l'expérience. Par sa parole, Dieu ouvre nos yeux sur la vérité d'un fait qui concerne son Fils, et ensuite, si nous acceptons par la foi ce fait pour nous-mêmes, il devient réel en expérience dans notre vie. Nous avons ainsi la révélation qui est objective et l'expérience qui est subjective. Nous remarquerons ensuite qu'une telle expérience prend habituellement la double forme d'une crise suivie de l'effet progressif de la vérité révélée et acceptée. Il est bon de penser à cette expérience en nous rappelant les termes du langage employé par John Bunyan dans Le Voyage du Pèlerin. La porte étroite par laquelle le chrétien doit entrer sur un chemin étroit. Notre Seigneur Jésus a parlé aussi de cette porte et de ce chemin qui conduisent à la vie. La porte étroite et le chemin resserré mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 14. L'expérience confirme ces paroles. Nous avons donc maintenant la révélation et l'expérience. Une porte étroite, la crise, et un chemin étroit, l'effet progressif. Prenons maintenant quelques-uns des sujets que nous avons traités et voyons comment ceci nous aide à les comprendre. Nous commencerons par notre justification et notre nouvelle naissance. Cette expérience commence par une révélation du Seigneur Jésus dans son œuvre d'expiation pour nos péchés sur la croix. Cette révélation sera suivie par la crise, la porte étroite de la repentance et de la foi par laquelle nous sommes, tout au début, rapprochés de Dieu. En Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, Éphésiens 2,13. Et ce premier pas vers Dieu nous mène à une marche de communion constante avec lui, le chemin étroit dont l'accès nous est acquis chaque jour sur la base du sang précieux. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un libre accès dans le lieu très saint grâce au sang de Jésus, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié des souillures d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, versets 19 et 22. Quand nous arrivons à la délivrance du péché, nous retrouvons ces trois pas. L'œuvre de révélation par le Saint-Esprit, ou le connaître, de Romains 6, 6. La crise de la foi, ou le considérez-vous, de Romains 6, 11. Et la suite continue de la consécration, ou le donnez-vous vous-même à Dieu, de Romains 6, 13. Sur la base d'une marche en nouveauté de vie. Considérons ensuite le don du Saint-Esprit. Cela aussi commence par une nouvelle vision du Seigneur Jésus, élevé sur le trône, qui aboutit à la double expérience de l'Esprit répandu sur nous et de l'Esprit demeurant en nous. Et enfin, en arrivant à la question de plaire à Dieu, nous retrouvons ce besoin d'une lumière spirituelle pour comprendre la valeur de l'œuvre de la croix à l'égard de la chair, c'est-à-dire toute cette vie du moi chez l'homme. Dès que nous acceptons cette œuvre subjective de la croix, nous entrons dans l'expérience de la porte étroite. Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 7, 25. Nous commençons par cesser de faire et acceptons par la foi l'action puissante de la vie de Christ qui satisfait en nous les exigences pratiques de Dieu. Et par là, nous entrons dans le chemin étroit de la marche dans l'obéissance à l'Esprit. Nous marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, verset 4. L'image n'est pas identique dans chaque cas, et il nous faut prendre garde à ne pas imposer au Saint-Esprit un plan d'action rigide. Mais une nouvelle expérience pourra peut-être se présenter à nous, plus ou moins suivant ce processus. Il faudra que nos yeux soient ouverts sur ce nouvel aspect de Christ et de son œuvre accomplie, et ensuite la foi ouvrira une porte pour suivre un chemin nouveau. Souvenons-nous aussi que si nous divisons l'expérience chrétienne en différents sujets, la justification, la nouvelle naissance, le don de l'Esprit, la délivrance, la sanctification, c'est uniquement pour que nous comprenions plus clairement. Cela ne signifie pas que ces étapes doivent se suivre ou se suivront toujours dans un ordre bien déterminé. En fait, si nous avons reçu dès le début une présentation entière de Christ et de l'œuvre de sa croix, nous pouvons entrer dans des expériences très riches dès le premier jour de notre vie chrétienne, alors même que leur explication plus profonde ne nous apparaîtra que plus tard. Puisse toute prédication de l'Évangile être de cette nature. Une chose est certaine. La révélation précédera toujours la foi. Lorsque nous voyons quelque chose de ce que Dieu a accompli en Christ, nous répondons naturellement « Merci Seigneur » et la foi suit spontanément. La révélation est toujours l'œuvre du Saint-Esprit qui nous est donné et nous prend par la main afin de nous conduire dans toute la vérité en nous ouvrant les Écritures. Quant à lui, l'Esprit, quand lui, l'Esprit, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Comptons sur lui, car c'est pour cela qu'il est ici. Et lorsque nous avons des difficultés devant nous, soit un manque de compréhension, soit un manque de foi, apportons directement au Seigneur ces difficultés. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, fais-moi comprendre clairement ceci. Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Il ne nous fera jamais défaut. Quatre aspects de l'œuvre du Christ sur la croix. Nous sommes maintenant en mesure de faire un pas de plus pour considérer la grandeur et la profondeur immense de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus. À la lumière de l'expérience chrétienne et pour une analyse claire, il nous sera peut-être utile de voir l'œuvre rédemptrice de Dieu sous quatre aspects différents. Mais tout en le faisant, il reste essentiel de garder à l'esprit le fait que la croix de Christ est une seule œuvre divine et non une suite d'œuvres successives. Un jour, en Judée, il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, et il est maintenant élevé à la droite de Dieu. Acte 2, 23. L'œuvre est achevée et elle n'aura jamais besoin d'être répétée. Rien non plus ne peut y être ajouté. Des quatre aspects de la croix que nous allons mentionner, nous en avons déjà étudié trois en détail. Et nous considérerons le dernier dans les deux volets suivants de notre étude. Nous pouvons les résumer brièvement de cette manière. Le sang de Christ qui règle le problème des péchés et de la culpabilité. La croix de Christ qui règle le problème du péché, de la chair et de l'homme naturel. La vie de Christ offerte à l'homme pour demeurer en lui, le recréer, le fortifier. L'action de la mort dans l'homme naturel afin que la vie demeurant en lui puisse se manifester progressivement. Les deux premiers de ces aspects ont un caractère réparateur. Ils sont liés à la destruction de l'œuvre du diable et à la destruction du péché de l'homme. Les deux derniers ne sont pas réparateurs, ils sont positifs et sont liés plus directement à l'accomplissement du dessein de Dieu. Les deux premiers sont nécessaires pour retrouver ce qu'Adam a perdu par la chute. Les deux derniers doivent nous faire entrer dans et faire en nous quelque chose qu'Adam n'avait jamais eu. Nous voyons ainsi que tout ce que le Seigneur Jésus a accompli dans sa mort et sa résurrection est une œuvre qui a pourvu à la rédemption de l'homme et une œuvre qui rend possible l'accomplissement du dessein de Dieu. Nous nous sommes arrêtés assez longuement dans les volets précédents sur les deux aspects de la mort de Christ, représentés par le sang pour nos péchés et notre culpabilité, et la croix pour le péché et la chair. Dans notre étude sur le dessein éternel de Dieu, nous avons aussi considéré brièvement le troisième aspect, celui représenté par Christ comme le grain de blé, et dans notre dernier volet, où nous avons vu Christ comme notre vie, nous avons été amenés à saisir quelque chose de sa réalisation pratique. Cependant, avant de nous pencher sur le quatrième aspect que nous appellerons « porter sa croix », il nous faut ajouter quelques mots sur ce troisième point, c'est-à-dire sur la libération de la vie de Christ dans sa résurrection, pour qu'elle demeure dans l'homme et le rende apte au service de Dieu. Nous avons déjà parlé du dessein de Dieu dans la création et nous avons dit qu'il dépassait infiniment ce qu'Adam a connu. Quel était ce dessein? Dieu voulait avoir une race d'hommes dont chaque membre posséderait un esprit, par lequel il serait possible la communion avec lui-même, qui est esprit. Cette race, possédant la vie même de Dieu, devait coopérer avec lui pour l'accomplissement de son but éternel, en maîtrisant toute révolte de l'ennemi et en détruisant ses œuvres mauvaises. Tel était le grand plan de Dieu. Comment pourra-t-il être réalisé? La réponse se trouve encore dans la mort du Seigneur Jésus. C'est une mort puissante. elle est quelque chose de positif. Elle a un but déterminé qui va bien au-delà de la reconquête d'une position perdue. Car par elle, non seulement le péché et le vieil homme ont été mis de côté et leurs effets annulés, mais quelque chose de plus, quelque chose d'infiniment plus grand, a été introduit. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain volet de nos méditations. Nous parlerons de l'Église sous une vision un peu différente que celle où nous l'abordons d'habitude.